L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission Le Magazine de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Une émission qui mousse et qui plonge dans la bière avec délectation, la bière de la Presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime, la plus emblématique, la plus célèbre, incarnée par un site non moins emblématique, Térénèse. Térénèse, son pont, ses viviers, ses anciens souterrains militaires transformés en brasserie. La bière de Térénèse est certes à consommer avec modération, mais elle est bonne et de plus en plus bio. Ses différents produits existent en version classique et certains labellisés AB. Son dirigeant fondateur avec nous aujourd'hui est adhérent de la Maison de l'Agriculture Bio, partenaire de Radio Évasion pour ce LEM. Bonjour Olivier Lallemand.
Bonjour.
Alors déjà, où en est la brasserie du bout du monde en ces circonstances, on va dire, de crise sanitaire?
Après plusieurs péripéties, 2020, on ne s'en sort pas trop mal. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont autour de nous. On voit qu'on est une brasserie locale et on voit le soutien qu'on a de toutes les personnes autour et je ne peux que les remercier. Cette année, donc 2020, a été un petit peu particulier. 2021, on a fait un très très beau rebond. Aujourd'hui, on atteint un peu plus de 300 000 litres de bière de produits cette année.
Donc, il y avait une baisse quand même.
Oui, pas une baisse. On est arrivé, on a eu une petite baisse, mais naturellement, parce que je pense à tous nos clients et partenaires qui sont les restaurants, les bars, qui ont beaucoup souffert de cette crise et qui souffrent encore. Et par contre, bon, les caves, il faut dire que le mode de consommation a un peu changé, toujours sur le local, et heureusement, et je tiens à remercier tout le monde d'avoir joué le jeu et nous avoir aidés.
Vous avez, oui, c'est quoi les changements de mode de consommation? C'est intéressant, c'est quoi le...
Plus à la maison, on voit que, par exemple, les événements, grands événements familiaux où il y a une 50-100 personnes, notamment je pense au mariage, cette année, l'année dernière, ça a été vraiment diminué. Et par contre, on est plus sur des petits anniversaires où il y a 20-30 personnes, déjà petit, c'est déjà pas mal, 20-30 personnes, où justement, bien, on va réduire le cercle d'amis à des vraiment... sur 20-25 personnes à peu près.
Et donc là, vous pouvez intervenir comme prestataire, en fait, quelque part?
Prestataire, oui, en termes de location de tireuses, et puis aussi notre magasin, et aussi les caves, les épiceries fines, qui sont aussi, pareil, des partenaires fidèles. Et je tiens, pareil, à les remercier, parce qu'ils ont toujours joué le jeu, ils ont toujours été là avec nous, et on a vraiment un partenariat fort depuis plus de 8 ans maintenant, pour certains.
Parce qu'il faut rappeler que la bière de Térénèse, on ne la trouve pas n'importe où, en fait, déjà. Déjà, c'est quoi, géographiquement, sa zone?
Géographiquement. Alors, on va travailler Grand Ouest, principalement Finistère, où là, vraiment, on est vraiment présent. Via le comptoir irlandais, partout en France, parce qu'il faut le dire, grâce au comptoir irlandais, on est sur tous les départements quasiment français, si je ne dis pas de bêtises, qui est au moins 49. Et aussi, bon, donc, comme je disais, principalement Finistère. Plus de 80%, c'est Finistère, notre terre natale, donc... On est fiers d'être présents ici.
Et donc pas dans n'importe quel commerce non plus.
Tout à fait. On va travailler cave, épicerie fine, biscuiterie et aussi tout ce qui est magasin. Comme on a des fleuristes, on a des bouchers, on a des traiteurs, des personnes qui apprécient les bons produits, les beaux produits. Je pense par exemple une référence, les Fleurs du Vent à Poirzel, la Maison Legrand, Dominique, donc la cave du Fou par exemple, des gens qui vont chercher des produits, qui vont vraiment en contact du producteur.
J'ai l'impression, peut-être me tromper, mais je ne crois pas, qu'il y a une explosion des brasseries en Finistère et en Bretagne même. Est-ce que c'est vous le constatez? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors aujourd'hui, on voit que le panorama, on va dire la taille du nombre de brasseries augmente. Nous sommes, alors moi je suis délégué régional du Syndicat National des Brasseurs Indépendants, donc le SNBI. Aujourd'hui, nous avons plus de 60 brasseurs bretons qui font partie de notre syndicat et une vingtaine dans le Finistère. Et on voit que le maillage se fait de plus en plus. Bon là, j'ai appris qu'il y a, dans peu de temps, il va y avoir une brasserie qui va ouvrir du côté de Douarn, Nonnet.
Il n'y en avait pas.
Non, il n'y en avait
Étonnant.
Pas. Non. Il y a des brasseries qui poussent un petit peu partout. Et c'est bien parce que c'est comme pour le vin. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous le même palais. Et donc, il en faut pour tout le monde. Et puis, voilà, moi, je me dis... plus on est nombreux, entre guillemets, chez les petits, et j'en fais partie, et mieux c'est parce que justement, on va faire sur la qualité et non de la quantité.
Alors, en termes de site, donc Térénèse, enfin la brasserie du bout du monde, vous êtes toujours en partie dans les souterrains, les anciens souterrains militaires à Térénèse, c'est ça, sur le site et...
Tout à fait, oui, on a toujours gardé une emprise, heureusement, parce que ça fait partie de notre histoire. Par exemple, on fait des vieillissements en fût de chêne, ayant contenu du Bordeaux, par exemple, cette année. On a une très belle appellation, qui a une appellation Margaux, qui est en vieillissement pendant 5 mois. On a fait Bourgogne aussi, et on a aussi notre zone de préparation commande de là-bas, on
a toujours... Vous faites du vieillissement pour d'autres, pour des
produits. Non, pour notre bière.
Ah, oui.
On fait des vieillissements en fût de chêne ayant contenu des vins, du cognac, on a fait du whisky, on a fait pas mal de choses. On s'interdit rien, on explore, on teste, parce qu'on est des artisans, faut pas l'oublier.
Ah oui, c'est ça, vous testez donc des bières vieillies, c'est ça?
Tout à fait.
Enfin, moi, je connais pas trop ce concept. C'est quoi? C'est combien d'années?
Non, parle en moi, parce qu'en fait, c'est très marqué par le vin ou par les alcools. Donc, on va être sur 5-6 mois de vieillissement, et après, derrière, on embouteille et on va vendre le produit. Et je peux vous dire que il y a de la casse. Hein. On a à peu près entre 20 et 30% de casse. Ça veut dire que la bière, à notre goût, n'est pas vendable. Donc on la retire, on ne la met pas sur le marché.
Et c'est encore un produit qui n'est pas très connu, je suppose. Enfin...
Pénir à ses adeptes, c'est le nom de notre marque vie en fût de chêne, à ses adeptes, et on est content parce que d'année en année, on voit que les gens sont vraiment... fidèles au produit et font découvrir et disent bah, c'est super. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans ces souterrains, on a une température hydrométrique qui est contrôlée. On est entre 14-15 degrés toute l'année, un taux d'hydrométrie autour de 90%. Et là, c'est vraiment parfait parce que on travaille vraiment comme un vigneron avec une belle cave et c'est vraiment intéressant.
Vous avez d'autres sites de production, à part les souterrains?
Alors, oui, naturellement, on a Le Fou, selon la Voie Express, à côté de la pépinière d'entreprise. Et aussi, on a un autre site pour des nouveaux produits, donc qui sont aussi à consommer avec modération, qui sont les rhums. Donc, on est à Saint-Martin-des-Champs. Pourquoi? Parce que c'est un petit clin d'œil, parce que dans le Finistère, il faut savoir qu'il y a deux Térénèses. Il y en a un, donc, à l'entrée de la presqu'île de Crozon, qui est vraiment sur lequel on est fidèle, on restera fidèle autant que je serai dans l'entreprise, et je ne suis pas prêt de partir. Et Saint-Martin-des-Champs, juste à côté Saint-Martin-des-Champs, à Pouganou, où il y a un deuxième Térénèse, et c'était un petit clin d'œil, parce qu'on s'est dit, on va aller faire un petit coucou là-bas.
Et ça fait combien de salariés?
Alors aujourd'hui, donc 12 salariés, 2 apprentis, et moi-même, donc on est une petite quinzaine, donc déjà.
Et donc le restaurant, la brasserie, restaurant cette fois, que vous aviez ouvert au Fou, a tenu le cap aussi?
Oui, a tenu le cap, justement, on a été obligé de mettre des personnes en chômage partiel, il ne faut pas se voiler la face, hein, il ne faut pas le cacher, mais ça nous a permis justement de pouvoir tenir le cap, et garder ces personnes qui sont restées et sont restées fidèles. Et donc, ça nous permet d'aujourd'hui de continuer à ouvrir du mardi au samedi, toute la journée, donc de 10h jusqu'à 19h, sauf le vendredi. On a un peu plus tard fermé.
Et vous avez donc certaines de vos bières qui sont en bio, donc c'est un peu le cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc vous adhérez aussi à la Maison de l'Agriculture Bio. Alors déjà, pourquoi la démarche d'adhérer à la MAB?
La MAB, c'est tout simplement pourquoi? Parce que on va dire qu'on est voisins. Hein. On est à 10 minutes grand maximum de la MAB. Et puis c'était un vœu pieux que j'essayais. J'arrivais pas en fait à passer le gap du bio parce que tout simplement, c'est que je voulais faire une bière 100% bio. Et on m'a dit, non, tu peux faire des dérogations. Alors j'ai dit, oui, mais ça correspond pas à nos valeurs parce que nous, on fait tout à 100%, on ne fait pas. Et puis, en discutant justement avec la MAB, me dit, fais une dérogation parce que tu y as le droit, tu as le droit à 5% de produits non bio. C'est ce qu'on a fait au début. Et maintenant, aujourd'hui, ces dérogations, on n'y a plus le droit à partir de 2022. Et on est passé à 100% bio, sauf les levures, parce qu'on n'a pas le choix. Les levures, on ne peut pas les avoir 100% bio. Mais voilà, on est à 99% bio sur nos produits.
Vous avez combien de bières qui sont de produits qui sont en bio labellisés ?
Alors, on a 3 produits aujourd'hui et 4 bientôt, on va avoir aussi l'ambré. Donc on a la blonde, la blanche, la triple en terrenaise et l'ambré. Et donc là, on est en format 75.
Alors peut-être qu'il faut redonner la recette générale de la bière pour que les gens comprennent quels sont les ingrédients que vous devez trouver en bio justement.
Oui, effectivement. Alors donc, en fait, pour faire de la bière, naturellement, il faut de l'eau, parce que bah, sans eau, on ne peut pas faire de bière. On va avoir du grain. Alors il faut savoir que la brasserie du bout du monde s'inscrit dans quelque chose qui est pérenne et sur le long terme, à savoir, on fait partie de la SIC, donc une société d'intérêt collectif, où plusieurs brasseurs se sont mis autour de la table en disant comment on peut faire pour développer notre territoire, comment on peut faire pour développer et fidéliser des agriculteurs autour d'un projet. Et c'est pour ça aussi que la MAP est intéressante aussi là-dedans, parce qu'elle nous met en relation avec des agriculteurs pour pouvoir développer une agriculture bio et du malt bio. Et donc, on a créé la Malterie de Bretagne, où aujourd'hui, il y a plus de 45 ou 50 clients qui commandent chez nous. Je dis chez nous, ils peuvent aussi être sociétaires, et justement, je les appelle à venir. Et en fait, le but du jeu, c'est d'avoir un grain bio breton, malté en Bretagne. En fait, toute une chaîne logistique et de fabrication de la terre à la bière, donc il y a aussi une association qui s'appelle comme ça, dont on fait partie aussi, permet justement de tracer tout notre grain et réduire notre impact environnemental au niveau aussi des gaz à effet de serre, notamment le CO2.
Et tous les grains pourraient être produits en Bretagne potentiellement ?
Aujourd'hui, une bonne partie. Après, on va avoir une problématique de capacité. Parce que, justement, on a aussi des grosses structures qui sont dans la malterie. Et là, on fait pas à pas, justement, l'année prochaine, on va passer début d'année ou même fin d'année, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, fin d'année. On passe à 1000 tonnes de malt produit sur la Bretagne, dans la malterie de Bretagne.
Donc pas forcément bio en l'occurrence.
Ah non, bio.
Ouais, mais la malterie vise le 100% bio, pas forcément. Mais...
Elle est 100% bio.
D'accord.
Parce ouais, que, bon. C'est un vœu, vraiment un vœu de notre part. Ça fait partie des statuts. C'est ancré dans les statuts.
Et ça pose pas trop de problèmes aux agriculteurs. Enfin, ils y arrivent. Je sais pas, la météo se prête bien à la production.
Mais justement, de travailler avec 4 départements bretons, on a essayé de 5, mais c'est un peu compliqué. On taira le sujet. Pour pouvoir se dire, s'il fait mauvais en Ille-et-Vilaine, il fera beau dans le Morbihan, et ça permet d'éclater ces cultures et aussi travailler aussi à un juste prix pour le brasseur, comme aussi pour l'agriculteur. Nous, on ne travaille pas avec les systèmes de trade, avec des systèmes de bourse où on va regarder à combien est le coût, etc. Non, c'est tous les ans, on en discute. Le prix du grain, il est à temps. Eh bien, c'est comme ça. C'est les yeux dans les yeux, c'est pas derrière un écran. Non, les agriculteurs font partie. En fait, si vous préférez, il y a plusieurs groupes. Il y a les brasseurs, les agriculteurs. Il y a aussi les sécheurs et les trieurs, parce qu'on a besoin de faire un tri sur le grain. On va avoir aussi les salariés font partie aussi de la SIC et sont partie prenante des votes. Donc tout le monde a vraiment son mot à dire.
Et combien de producteurs ou d'agriculteurs
En agriculteur, de mémoire, c'est 80, mais ça bouge tellement parce que on essaie de faire grossir au maximum. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut aller voir le champ, on peut aller voir l'agriculteur. Je suis en relation avec eux régulièrement. Tous les trimestres, je suis en réunion avec eux, avec justement les différents collèges. Assez riche d'enseignements parce que la météo change tout le temps. On s'est informé comment ça se passe dans les champs. Et là, on a vraiment une culture vraiment de proximité. Je parlais tout à l'heure d'artisan. Là, c'est comme l'artisan qui travaille le bois des meubles. Il va dans la scierie en disant comment le bois est cette fois-ci ? Est-ce qu'il est suffisamment sec, etc. C'est pareil pour nous, pour le grain. Il n'y a pas longtemps, on a fait par exemple une bière avec du houblon finistérien dans le nord Finistère. Le houblon, j'ai été le chercher dans le champ. J'ai été le ramasser, le mettre en botte, parce que là c'est du bon frais, donc en fleurs, parce que nous on travaille principalement pelé. Ça s'est super bien passé. J'étais en relation avec l'agriculteur et on a passé un super moment. Et là, c'est toute la force de l'artisanat en fait.
Et donc les trieurs sécheurs, ils sont combien, juste pour savoir ?
Alors là, aujourd'hui, ils sont pas nombreux parce que c'est un métier qui qui est assez rare, on va dire.
Je ne connaissais même pas.
Voilà. Deux. Il y a un collège. Il y a un collège de Trier, c'est cher.
Et donc, cette société coopérative d'intérêt collectif pourrait s'agrandir, enfin, pourrait accueillir d'autres membres.
Ah, bien sûr. Mais justement, le but avoué, c'est qu'on ne bloque pas le nombre. Les agriculteurs qui font pousser l'orge sont les bienvenus. Les brasseurs, c'est pareil. On a mis de l'argent au pot pour justement développer nos outils. Et le but du jeu, c'est de garder ce travail, de faire un travail durable, se garder ce travail sur notre territoire et développer notre territoire comme cela.
Et pourrait y avoir des particuliers, des collectivités qui intégreraient la SIC éventuellement ?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de collège particulier et commune ou communauté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait déjà 5 collèges. Donc déjà 5 collèges à gérer.
Oui.
Pour faire une réunion, c'est un peu compliqué, je ne vous le cache pas. Et c'est pour ça qu'on s'est quand même assez restreint sur la partie producteur et tout le maillage professionnel, en fait.
Et la MAB fait partie aussi de... Non, enfin non, elle ne peut pas s'intégrer.
On est plutôt sur le milieu régional. Parce que comme on travaille en région, là, on est passé un cran au-dessus, on n'avait pas le choix. Parce que, imaginez-vous, 4 départements à gérer, Goulven le fait très bien, mettre en relation justement des agriculteurs qui sont susceptibles d'être avec nous, de travailler avec nous de main dans la main, avec aussi nos préférences sur des cultures. Et ça, c'est important pour nous. Donc là, on est passé sur un modèle régional, mais effectivement, ça a toute sa place, heureusement.
Et pourquoi les levures bio, c'est compliqué à obtenir ?
Parce qu'en fait, la labellisation ne se fait pas, tout simplement parce que dans le process de fabrication, il y a besoin d'éléments qui n'est pas bio, mais qui n'est pas ni OGM, ni ionisé, etc. Et je ne connais pas aujourd'hui une levure bio. Alors, si vous en avez, n'hésitez pas.
Mais ça pourrait. Bon,
si ça existe, ça techniquement... Faisable. Moi, je n'ai pas entendu parler. Et pourtant, je peux vous dire que de la recherche, on fait de la recherche de la veille régulière, on n'a pas trouvé aujourd'hui.
Et donc, vous avez quand même, vous n'avez pas décidé quand même de passer tous vos produits en bio. Donc, pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, parce que tout simplement, y a deux choses à cela. C'est que le bio a un coût. Il ne faut pas se voiler la face. Tout le monde ne peut pas dire « je vais avoir du bio chez moi » parce que tout le monde n'a pas les moyens, il ne faut pas se le cacher. Même si aujourd'hui, il y a une démocratisation du bio. Et donc, on s'est dit, on veut avoir une bière qui soit assez démocratisée. C'est pour ça aussi que le magasin d'usine est là aussi pour ça. Mais même aussi, dans les caves, les épiceries fines, on peut se faire plaisir. Et comme je dis, aujourd'hui, je préconise plutôt une consommation raisonnée où justement, on va se faire plaisir qu'une consommation à outrance.
Un peu comme pour la viande, la meilleure qualité et moins de viande.
Exactement. On peut faire le parallèle là-dessus. Et effectivement, par rapport à cela, on s'est dit, on peut partir pour trois références, bientôt 4, en 75, parce que justement, on a aussi une petite idée derrière la tête. Excusez-moi. En fait, on travaille aussi en relation avec l'association Distro, que j'ai créé en 2015, et j'ai redonné le flambeau à Arnaud et toute son, Antoine pardon, et à toute son équipe. Et le but, en fait, c'est d'avoir une bière bio avec un système de lavage sur la bouteille de 75, et on espère, dans un second temps, la bouteille de 33. Alors, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que ça prend beaucoup de temps, on ne s'imagine pas, c'est plein de contraintes. Et on a commencé par des bouteilles de 75, parce qu'en fait, ces bouteilles-là sont consignables, et donc on a une bouteille bio avec une bouteille consignée, lavée en Bretagne. Donc le but du jeu, c'est d'avoir tout un schéma bien dirigé, avec un produit fabriqué au maximum en Bretagne, avec aussi des entrants qui sont bretons, et avec une bouteille qui est lavée en Bretagne. Donc là, on a quasiment finalisé toute la schématique de l'économie circulaire et donc tout ce qui est aussi économie responsable et solidaire.
Et Distro, c'est quoi son but ? Enfin,
alors Distro, en fait, j'ai créé cette association avec Patrick, donc qui est en 2015, parce qu'en fait, à l'époque, on était à Terre-et-Naize et je tenais le magasin et tout le monde me disait, Olivier, pourquoi tu réutilises pas tes bouteilles une fois, deux fois, consigné, trois fois, voilà, consigné. Hein, je... Bon, effectivement, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Et puis j'ai été voir une personne d'ailleurs, Armel Prigent, MTE, qui travaille à la communauté de communes, qui m'a dit tiens, j'ai cette idée-là. Est-ce que tu connais quelqu'un ? Et elle me dit je te conseille de rencontrer Patrick. Patrick avait créé C'est la Watt. Du côté de Morlaix.
Qui recycle sur tous les journaux.
Exactement. Ouais, exactement. Et donc, il avait une entreprise qui, justement, travaillait sur le développement écologique. Voilà. Et donc, on a travaillé avec l'ADEME, avec la région Bretagne, avec différentes collectivités, pour développer le projet. Et donc, de là, bon, au bout d'un moment, je ne vous cache pas que gérer la brasserie du bout du monde, qui en plus fait des petits en faisant les arrangés du bout du monde, et en plus gérer une association en tant que président, des réunions un petit peu partout en France et même en Europe, parce qu'on était jusqu'en Suisse pour les voir des laveries de bouteilles, et bien ça prenait énormément de temps. Et à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je me détache du bébé pour que ce soit d'autres qui reprennent le flambeau. Et puis bon, on avait arrivé à un livrable, ce qu'on appelle un livrable, ça veut dire que des préconisations avec un rapport d'activité. On a été auditionné par le ministère de l'écologie, on a été auditionné par un sénateur et un député, donc on a vraiment fait le travail jusqu'au bout. Et là, aujourd'hui, Distro est dans sa phase aujourd'hui, qui va rentrer dans une phase opérationnelle et qui va passer aussi en mode SIC.
D'accord. Et donc, c'est cette histoire de consigne, de bouteilles consignées. Donc, on comprend entre les lignes que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Enfin, c'est quoi les problèmes principaux que vous avez rencontrés
Alors, les problèmes principaux, ça va être de plusieurs ordres. Ça va être déjà, c'est recréer un maillage. Parce qu'on ne voit pas comme ça, mais créer un maillage de récupération de bouteilles, c'est compliqué. Il faut que tout le monde soit d'accord sur le format de la bouteille, parce que des formats de bouteille, je peux vous dire, il y en a un paquet.
Les couleurs, tout ça.
Voilà, exactement. Il y a ça. Il y a aussi qui est d'accord pour le faire. Parce que c'est aussi avoir une étiquette qui est hydrophobe, donc qui s'en va à l'eau. Ça, c'est pas facile non plus. C'est plein de petites choses qui font mis bout à bout que ça prend un peu de temps. Quoi.
Parce que l'idée pour vous, en ce qui vous concerne, c'est quand même de récupérer vos bouteilles sans les refondre, les réutiliser, c'est ça ?
Exactement. Imaginez-vous, vous avez une belle plage, vous vous promenez avec des enfants, que ce soit les vôtres ou des enfants, et puis un jour, vous voyez plus de sable. Si on continue, c'est ce qui risque de se passer.
C'est ça. Mais parce qu'on pourrait très bien récupérer les bouteilles, les fondre,
oui.
Sans... Enfin...
Oui, mais on va avoir des entrants obligatoirement. Il y a toujours de la perte en ligne.
Ah oui.
Donc, parce qu'on, malheureusement, on fait encore de l'enfouissage. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas le cacher. On fait encore de l'enfouissage. Et donc, on a une bonne partie qui part justement dans ces enfouissages. Donc, plus on va utiliser justement les bouteilles, il ne faut pas oublier aussi que les gaz à effet de serre, parce qu'on a besoin d'énormément d'eau pour refroidir les bouteilles.
Oui, c'est ça.
Donc là, perdons beaucoup d'eau. Il faut savoir qu'aussi que le sable est la deuxième matière utilisée au monde, donc c'est quand même énorme, après l'eau.
Pas que pour faire du verre d'ailleurs, sans doute.
Non, mais aussi pour le béton, mais il ne faut pas l'oublier, c'est du sable de mer, parce qu'on ne peut pas utiliser des sables de désert. On va avoir aussi du CO2, parce qu'automatiquement on va générer une forte chaleur, donc on a besoin de CO2, de gaz pour pouvoir faire tourner les chaudières, etc. etc. Une bouteille, et que si on la récupère dans un périmètre de 260 km, économiquement, écologiquement, c'est viable.
D'accord. Et donc après, il faut la nettoyer, puisqu'il y a des questions sanitaires, je suppose.
Tout à fait. C'est pour ça que je disais bien les deux, économiquement et écologiquement. Par contre, il faut massifier, il faut faire beaucoup de volume pour que ça soit... parce qu'il n'y a pas de secret, pour avoir un système économiquement viable, il faut que ça soit vraiment sur de la masse. Alors on va me dire, oui, vous parlez de l'argent, oui, parce que si on vend trop cher une bouteille, les gens diront, non, je ne peux pas l'acheter.
Oui, tout à fait.
Il faut qu'on arrive à un juste milieu pour que, comme on dit chez nous, un win-win, tout le monde gagne.
Et donc, il y a des machines à laver les bouteilles ça se passe
tout à fait. Justement, nous, on travaille avec un laveur via l'association Distro qui est dans le 22.
Donc, c'est sous-traité, en fait.
Exactement, c'est sous-traité. Okay. Par contre, on rajoute du matériel dessus pour vérifier qu'il n'y ait pas de casse à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de problème microbien, etc. Donc, en fait, que toute la chaîne soit verrouillée du début jusqu'à la fin.
Et ça, c'était comme ça, les bouteilles d'autrefois qui étaient consignées, où elles étaient refondues ou elles étaient réutilisées
Justement, on a tous cette image en tête. Bon, moi, je suis un peu, on va dire, je commence à vieillir.
Allons bon.
Ben, mais tous ceux qui ont plus de 40 ans ou peut-être ouais, 35, 40, 40 et plus se vont encore amener les bouteilles d'eau, de limonade à l'épicier du coin en disant bah tiens, je te donne, t'as un franc et puis t'as la bouteille. Ben, c'est ça. Nos parents et nos grands-parents, ils faisaient pas des choses idiotes. Tout simplement, c'est qu'en fait, on a cassé un modèle parce que ça a été hyper industrialisé et on s'est dit bah, vous inquiétez pas, on va le faire. Et là, bah, on est en train de faire quelque chose qui est aberrant parce qu'on sait que le système fonctionne.
Et quand est-ce que vous pensez avoir finalisé ce projet
Alors moi aujourd'hui, je suis plus partie prenante.
Enfin, distro alors.
S'il vous plaît. Antoine et son équipe se bat pour cela. Et donc à partir de là, on espère créer la SIC. Ils espèrent créer la SIC pour 2022 et avec des phases opérationnelles à partir de fin 2022.
Et donc, ce serait sur toute la Bretagne, en tout cas, cette collecte-récupération.
Tout à fait. Et même, on est arrivé même sur des réseaux nationaux, parce qu'on a mis, on a bout à bout, par exemple, qui est sur la région Pays de Loire. On a donc Bistro sur la région Bretagne. Il y a plusieurs, partout en France, plusieurs associations qui se sont créées. Et le but du jeu, c'est de créer des interconnexions entre eux, pour que justement, qu'une bouteille, par exemple, qui se retrouve, je dis une bêtise, dans l'est de la France, reviennent pas en Bretagne, parce que je vous parlais de 260 km. Le but du jeu, c'est qu'on puisse avoir le même schéma partout.
Et échanger les savoir-faire éventuellement.
Exactement, aussi, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Lallemand. C'était tout à fait passionnant. À bientôt.